Je suis désolée.
Oui.
J'étais fou. J'ai cru que la lune. Je reviens aux apparences, si vous voulez bien. On a un truc assez intéressant dans cette onction, cette scène bien connue de l'onction de David par Samuel, la succession des sept frères. Samuel est envoyé à Jessé à Bethléem, qui a sept fils. Non, il en a huit. Il va falloir aller chercher le petit huitième.
Comment on met de la
De là. Alors, il a sept fils. On commence par les aînés, évidemment, le plus grand, le plus beau. Et Samuel veut oindre le plus grand, le plus beau. Et à ce moment-là, Dieu dit à Samuel, ne considère pas la hauteur de sa taille, je l'ai écartée. Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues de l'homme. L'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. C'est pas si sûr que ça, ou en tout cas, la volonté, finalement, la tendance humaine à choisir le plus grand, le plus beau, elle est toujours là. Puisque de David lui-même, on dira après, il était roux avec un beau regard et une belle tournure. Il n'est pas question que David ne soit pas beau. Dans tout Israël, il n'y avait personne d'aussi beau que lui. Donc voilà, Dieu ne se prend pas aux apparences, mais les hommes continuent à s'y prendre. Malgré tout, ce qu'on souligne dans ce chapitre 16, c'est le choix par Dieu du plus petit. Ça, c'est important, ça reste quelque chose de fort, du petit dernier, celui qu'on n'attendait pas. À partir de là, une fois que vous avez ça mis en place, normalement, tout devrait se dérouler comme sur un tapis, puisque Dieu a choisi. Pas du tout, l'histoire résiste. Et toute la suite du récit va être la mise en place, le récit du conflit de plus en plus aigu entre Saül et David. C'est-à-dire que cette royauté, il va falloir que David, même si elle lui a été donnée, la conquiert de haute lutte. Évidemment, il y aura un refrain qui va revenir sans arrêt, celle au fond de celui qui va relire tout le récit et qui va dire sans arrêt que, effectivement, la famille le pouvoir de Saül allait en se rétrécissant, tandis que David gagnait de plus en plus en influence. N'empêche que c'est pas aussi clair que ça, et il y a vraiment un combat de plus en plus pointu qui va se présenter. Le combat, il est lié, évidemment, d'abord à la jalousie de Saül. Alors, vous trouverez l'expression qui est toujours un peu choquante, un esprit mauvais envoyé par le Seigneur qui s'était emparé de Saül. Bon, le malheureux Saül n'est pas gâté. En réalité, si, parce qu'on a une figure de Saül ailleurs, avant, qui est au contraire très positive. Il est vaillant, il a combattu contre les Philistins qui sont l'ennemi numéro un, et on a une figure assez positive de Saül. Cet esprit mauvais que le Seigneur lui envoie, c'est au fond la montée de la jalousie. Et on a, au fond, ce développement de l'étude psychologique qui, là aussi, est assez intéressant parce qu'à nouveau, on va avoir deux types d'explications qui se superposent, l'explication psychologique et puis l'idée, le Seigneur voulait évincer Saül. Jalousie de Saül qui va, vous le savez, après avoir été calmé par la harpe ou la lyre de David, je ne sais pas quel instrument il joue, et c'est traduit différemment selon les textes, finalement, submergé par sa propre jalousie et sa propre haine, le menace de sa lance, et va même menacer son fils Jonathan de le transpercer. On a à ce moment-là le rôle de deux personnages qui vont jouer des rôles différents par rapport au passage d'une royauté, d'une dynastie de Saül à la dynastie de David. Michal, la fille de Saül. D'une certaine façon, Saül essaye malgré tout de récupérer David dans sa propre descendance, puisqu'il ne serait pas contre lui donner en mariage sa fille aînée. Contre, alors devinez quoi, vous le verrez, contre 100 prépuces de Philistins. N'essayez pas d'imaginer. Ça peut remplir un seau ou un sac, je n'en sais rien. En tout cas, David se prend au jeu et lui, il va en ramener 200, mais à ce moment-là, il réclame la petite sœur, Michal, qui est plus jolie. 200 prépuces de Philistins, ça vaut bien ça. En tout cas, ça va être un échec. Un échec pour la malheureuse Mikal et pour Saül qui n'arrivera pas à attirer vraiment David de son côté. D'ailleurs, Jonathan, le fils aîné de Saül, va, en devenant le soutien inconditionnel, l'amant finalement, il a une passion pour David, passion probablement homosexuelle, mais une passion tout à fait généreuse pour David, va laisser de côté et dénoncer les erreurs de son père et demander à David, au fond, faire allégeance à David et lui demander de faire alliance avec lui en se soumettant à David. Et au fond, Jonathan cède à David sa place dans la succession royale. Il s'efface, au fond, devant David, qui est pour lui l'élu de Dieu. À partir de là, ce qui va vous être donné à lire et qui est un peu compliqué, ce sont les bagarres avec les Philistins. Alors, je vous montre une carte. On fait ce qu'on peut, elle n'est peut-être pas excellente. C'est l'ampleur maximum reconstituée. À mon avis, ça n'a jamais été si grand. Du royaume d'Israël, gagné par David. Vous voyez ici la Philistie, c'est-à-dire ces villes de la côte qui ont été prises par les Philistins. En gros, les Philistins, c'est des groupes de pillards qui arrivent par la mer et qui se mettent sur la côte et qui font des razzias vers l'intérieur. Ils ont une double supériorité, ils ont le fer contre les armes de bronze et c'est eux qui vont apporter l'écriture, ce qui n'est pas si mal. Bon. En tout cas, il représente l'ennemi par excellence parce qu'il grignote sans arrêt du terrain sur les régions qui appartiennent aux tribus d'Israël. Saül, lui, a son fief dans le nord, ici, entre Ramoth-Galaad et Zadon. Il a son fief par là et il est reconnu dans toute la région du nord, tandis que David va venir du sud de Bethléem. Mais Saül, qui voulait gagner toutes les tribus d'Israël, est sans arrêt venu se battre ici contre les Philistins. Évidemment, il envoie David se battre contre les Philistins. Et on a une situation complexe où Saül va se battre contre les Philistins, envoie David chez les Philistins et en même temps, il essaye de rattraper David pour le supprimer. Donc, les histoires sont un peu embrouillées. Si vous ne comprenez pas bien, laissez tomber, vous continuez la lecture. Ce qui va apparaître, et ce qui me paraît intéressant, c'est le rôle extraordinairement ambigu de David dans cette guerre contre les Philistins. Parce qu'il fuit devant Saül. Il doit combattre les Philistins et en fait, il va aller se mettre au service d'un roi philistin en faisant semblant de lui faire allégeance. Et du coup, il va se faire donner des villes. Il va se faire donner des hommes, des armes, et au lieu de servir comme il l'avait promis le roi philistin, et donc de détruire et de faire passer aux Philistins les villes d'Israël, il va, sans le dire, détruire au contraire tout ce qui appartient aux Philistins. Avec le raisonnement cynique, il ne faut pas laisser de prisonniers, parce que sinon, en parlant, il nous trahirait. Voilà. Donc, on tue tout le monde, comme ça, on n'est pas dénoncé. Bon, on pourra toujours dire que David travaille pour son pays. On n'est pas obligé de juger très positivement sa façon d'agir. En tout cas, face à cette complexité du personnage de David, on a à partir des chapitres 24 à 26 un élément qui va au contraire essayer de le grandir et de montrer sa générosité. On a deux récits qui sont tout à fait parallèles et qui sont probablement la même histoire racontée deux fois. En 24 et en 26, deux récits où l'on voit Saül tomber pratiquement entre les mains de David. La première fois, il est entré dans une grotte pour faire ses besoins et le pan de son manteau dépasse et David coupe le pan du manteau. La deuxième fois, il dort dans son camp et David vient lui voler sa lance et sa gourde, les attributs du roi en campagne. Et puis David s'éloigne et se moque, ou en tout cas fait remarquer à Saül qu'il ne l'a pas tué, avec pour argument, il n'est pas question pour moi de tuer loin du Seigneur, le Messie. Et donc, il reconnaît encore en Saül le Messie loin du Seigneur. On ne sait pas très bien comment il se situe. Il y a là une étrange façon de grandir le personnage de David. Il ne va pas tuer son adversaire au motif que son adversaire est celui que Dieu a choisi, alors que David sait bien que c'est lui. Voilà, il y a des choses assez compliquées qui montrent simplement, à mon avis, que la situation n'a pas du tout été claire, que ça a été très compliqué, cette guerre entre Saül et David. Là-dedans, entre les deux chapitres, émerge le personnage d'une femme, Abigaïl, qui deviendra une des femmes de David. Il en a une tripotée, hein, une entre autres. Mais enfin, une des femmes de David, et qui est un peu l'incarnation de la sagesse, et au fond, la façon dont on, au fond, s'exprime l'idéologie royale dans ce qu'elle a de meilleur. Dans ce qu'elle a de meilleur, parce que Abigaïl reconnaît en David le Messie de Dieu, celui à qui Dieu a donné, a promis la royauté sur Israël, mais fait bien remarquer que c'est à une condition, c'est que David soit non pas non violent. Alors on veut le tirer, il y a beaucoup de textes de commentateurs contemporains qui tirent David du côté de la non-violence, à mon avis c'est exagéré. N'empêche qu'Abigaïl insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de tuer au hasard et que la clémence est nécessaire et que la prudence est nécessaire. Donc on a là une lecture du côté de la sagesse de la figure royale. Ça c'est important et intéressant. À partir de là, les choses vont aller très vite, c'est-à-dire que très rapidement, les combats de Saül contre les Philistins vont mal tourner, et Saül et ses trois fils aînés, parce qu'on verra après qu'il en reste d'autres, les plus importants, sont tués au combat. Donc Saül disparaît avec l'essentiel de ses descendants, et on a à ce moment-là, et c'est le début du chapitre du deuxième livre de Samuel, la merveilleuse complainte de David, qui est un grand moment poétique de la Bible. On a dit que David était le roi poète et le roi chanteur, mais la complainte sur Saül et Jonathan, les amis, les aimés, comment sont tombés les guerriers, montagne de Gilboa a pleuré, fille de Jérusalem, etc. On a un poème absolument merveilleux au début du chapitre 2 de Samuel. Voilà. Et ça me conduit, si vous voulez bien, à la deuxième partie de ce premier ensemble. Saül mort, David peut monter sur le trône. Pas si simple, pas si simple. Pourquoi ? Et là, il faut à nouveau regarder la carte. Parce que David est au sud. David est au sud, il est à Bethléem, il est à Hébron. Et que Saül avait son fief dans le nord. Et que si assez rapidement, les populations du sud sont gagnées à David, il faudra beaucoup de temps pour que les tribus du Nord, qui sont environ la majorité des tribus du Nord, se rallient à David. Très vite d'ailleurs, après le règne de David et celui de Salomon, les deux régions vont se séparer et on aura les deux royaumes, dont vous voyez ici une carte plus claire. On est quand même un peu plus en terrain historique, hein, on est en 850, avec le royaume de Juda au sud, le royaume d'Israël au nord, donc la séparation en deux d'un Israël dont certains disent aujourd'hui, mais il n'a jamais vraiment été uni. Le rêve d'un royaume de David et Salomon uni, c'est un rêve, c'est un idéal qui même dans le passé lointain, qu'on connaît mal, de David et de Salomon, n'a jamais été réalisé. J'en sais rien, le récit quand même, lui, veut que David doive combattre d'abord, eh bien, ceux qui sont restés du parti de Saül, notamment ce général ou cet homme de guerre, Avner, qui fait reconnaître roi, un descendant de Saül, un autre fils de Saül qui en avait dû en avoir 50, et qui donc, au fond, installe une royauté opposée à celle de David au nord. Et il faut toute l'habileté politique de l'homme, oui, du général, de l'appui principal de David, Joab, qui est à la fois un politique, un cynique et un bon stratège, assassinant Avner pour que David puisse enfin devenir roi de tout Israël. Ça se construit quand même dans le sang, cette affaire-là. Dans le sang, dans les assassinats, etc., etc. En contrepoint, vous avez le choix par David, le choix remarquable, puisque dans l'histoire, il a duré 3000 ans, de la capitale, Jérusalem, qui n'était pas une ville israélite, qui était une ville appartenant à une population, les Jébuséens, que David, parce que David est un séducteur, hein, il a séduit Saül, il a séduit Michal, il a séduit Jonathan, il a séduit les rois philistins. Finalement, David est arrivé à se rallier à la population et il décide d'installer la capitale à Jérusalem, puisque d'une certaine façon, Jérusalem est neutre entre les tribus du nord et les tribus du sud. Peut-être pas tout à fait à une place centrale, mais quand même pas loin, et surtout parce qu'elle n'appartenait à aucune tribu. Et vous avez alors la scène connue, plus que connue, de la montée de l'arche à Jérusalem avec David dansant et gesticulant pour louer Dieu devant l'arche. Alors l'arche, qu'est-ce que c'est? Pas très clair. Un espèce d'objet qui ressemble à un coffre, à dimension ou à valeur un peu magique, qui accompagnait les Israélites, que les Philistins ont récupéré un certain temps. Puis quand ils ont trouvé qu'elle n'avait pas une grande valeur pour les aider à gagner les batailles, ils l'ont rendue ou l'ont abandonnée. On ne sait pas trop. En tout cas, c'est David qui s'en empare et qui en fait le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et il va donc, en grande pompe, monter l'arche à Jérusalem. Alors, est-ce que là, vous voyez l'image?
Oui.
Oui. Alors, présentation au 15e siècle. Le roi David est habillé. L'arche a une allure de tente des rois du 15e, 16e. Le roi David est habillé. Ce qui est intéressant, c'est sa gesticulation. Vous voyez les deux jambes, là? On se demande comment il ne tombe pas.
Ouais.
Comment il tient. Voilà. Torsion complète que les autres regardent avec un peu d'effarement. Représentation contemporaine. Une artiste australo-américaine, Rebecca Baucom, qui vous montre ce David à demi-nu, comme dans le texte biblique, complètement déjanté, avec une part de ridicule, et de fait, sa femme Michal se moque de lui. Alors, se moque de lui, ce qui est un moyen pour les rédacteurs de considérer que Michal, ayant été s'étant moqué finalement de David et de l'arche de Dieu, doit être châtié, va donc être frappé de stérilité. La malheureuse Michal, elle y était pour rien. En tout cas, c'est un moyen de faire sortir définitivement du paysage la possibilité dynastique de Saül. Voilà. Même sa fille n'aura pas de descendant de David. Voilà. Nous avons maintenant donc David installé à Jérusalem sur le trône. Est-ce que là, il y a des choses incompréhensibles, des questions urgentes avant que je passe à la deuxième partie. Si quelqu'un trouve que vraiment il faudrait expliquer quelque chose, vous ouvrez votre micro et vous le dites. Non, ça va?
Non, ça va.
Comment?
Si c'est possible, je voudrais bien revoir un instant la tapisserie.
Revoir la tapisserie?
Ouais.
Oh. Je la trouve géniale, mais il est bien habillé quand même. Bon, ça va?
Merci.
Alors,
j'ai juste une question. C'est juste moi ou on a perdu votre vidéo, Roselyne?
Ah non? Vous voyez encore la vidéo?
Vidéo, mais nous
ne
voyons pas ton visage, on voit simplement.
Non, on ne vous voit plus.
Oh, qu'est-ce qui se passe?
Non, mais on voit la présentation,
on voit le texte.
Mais on ne voit pas.
Ah, vous voyez la présentation? Si vous ne voyez plus, ça n'a aucune importance.
Mais on ne voit pas ça, oui.
Bon, je ne sais pas pourquoi. Affiché? Non, ce n'est pas ça. Non. Bon, je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que tu as arrêté ta vidéo, Roselyne ?
Non, j'ai rien arrêté.
C'est marqué secrétaire Lecif sans image.
Voilà.
Ça y est, c'est revenu.
Voilà, pleurez pas. Bon, allez.
Ah, c'est mieux.
C'est mieux. Deuxième partie. Vous y êtes là ?
Oui, oui.
Alors, j'emprunte l'expression à Philippe Lefebvre. Je dis ça parce que j'en profite pour dire que à la fin des papiers que vous avez reçus, la conférence, il y a une bibliographie. La bibliographie n'est pas pauvre, il y a beaucoup de choses, mais ce sont essentiellement des articles qui sont dans des ouvrages collectifs. Donc, c'est compliqué à avoir. Moi, j'ai essayé de bourrer la conférence, pas la conférence, mais le papier que je vous ai écrit, avec ce que j'avais retiré de ces articles. Comme ça, vous avez la bibliographie qui est un peu dans le texte. Voilà. J'emprunte ici donc cette expression à Philippe Lefebvre, David qui descend dans le lacis des passions humaines, je vous ai dit tout à l'heure, il descend même dans l'enfer, avec une succession extrêmement difficile. Même si, il y aura la succession triomphale de Salomon, et le fait, il ne faut pas l'oublier, que dans ce royaume qui sera réduit au royaume du Sud, la dynastie de David va quand même tenir 4 siècles, ce qui n'est pas rien. N'est pas rien. Ce ne sera pas le cas dans le Nord. Donc, cette deuxième partie commence à nouveau par un texte inaugural, une espèce de pacte de lecture avec l'entrée en jeu du prophète Nathan. Nathan qui vient annoncer à David que Dieu fait alliance avec lui, avec sa maison et surtout qui lui accordera des descendants et notamment un descendant type dont Dieu dit « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Voilà. Ça, c'est vraiment le texte dont le Nouveau Testament s'emparera. Mais, si vous lisez attentivement ce chapitre 7 du deuxième livre de Samuel, qui est assez célèbre, vous verrez que là aussi, il y a des fils narratifs qui s'entrelacent et il y a des points de vue très différents. Parce qu'au fond, il y a quand même des tendances différentes dans cette légende royale et dans cette affirmation d'une alliance de Dieu avec la maison de David. Il y a la tendance majoritaire qui est la tendance dynastique. Voilà, Dieu fait alliance avec David et lui promet une descendance qui régnera. Mais il y a la tendance aussi qu'on appellera plus tard deutéronomiste, de ceux qui font passer le peuple avant le roi. Et qui diront, les rois peuvent disparaître, d'ailleurs ils ont disparu, mais le peuple, lui, reste celui avec qui Dieu a fait alliance. Et donc vous aurez, outre la phrase que j'ai mis là en exergue, des phrases comme celle-ci, au milieu, hein, dans le même récit, dans la même affirmation de Nathan à David. « Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple, je l'implanterai, et c'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. Et d'Israël, on dira, non, et à Israël, on dira, voici que Dieu a établi Israël son peuple pour en faire son peuple à jamais, et lui, il est devenu leur Dieu. » Donc, vous voyez, il y a une espèce de concurrence entre l'idéologie royale et puis celle qui dit, après tout, c'est le peuple qui compte, on peut se passer de roi. Bon. En tout cas, on arrive maintenant dans une séquence où David est en roi, il lui faut assurer, roi du Sud et roi du Nord, roi d'un ensemble, il lui faut assurer les frontières. Si je reviens en arrière, les frontières, elles sont de moins en moins contestées par les Philistins qu'on a fini par battre, mais de plus en plus contestées au Nord par les Araméens et par les Ammonites. Et donc, on va avoir sans arrêt des guerres de David et de ses généraux contre ses populations. Or, c'est au cœur de ces guerres que va advenir l'histoire de David et Bethsabée. Là aussi, je peux citer Pierre Gibert, qui est un des premiers à avoir vraiment débrouillé les récits, la variété des récits dans ces textes, qui dit « on passe des champs de bataille aux chambres nuptiales ». Et c'est très emmêlé. Parce que ce sont les guerres qui permettent à David en l'absence du général ou de l'homme de troupe Uri, qui est le mari de Bethsabée, de s'emparer de sa femme. Et c'est parce qu'il s'empare de Bethsabée que pourra naître Salomon, le descendant avec qui Dieu a fait alliance. Pendant ce temps, le soldat Uri, lui, il est au combat. Alors, vous lirez bien sûr en détail ce chapitre 11, qui est quand même un chef-d'œuvre de psychologie et de finesse dans le récit, où on voit David mettre la main sur Bethsabée, qui est très très passive, hein. Curieusement, elle est comme absente, la Bethsabée. Et où, bon, on peut, avec David, s'attendrir sur la beauté, d'ailleurs triste, de Bethsabée. Là, c'est la Bethsabée de Rembrandt, qui quand même se pose des questions, qui quand même clairement se pose des questions. On peut aussi considérer, avec Chagall, que c'est le couple idéal, le couple dont va naître toute la descendance et avec laquelle Dieu a fait alliance. Donc, une vision complètement différente. En tout cas, le texte, lui, il patauge, j'ai pas d'autre mot, à dessein, dans la mauvaise foi et la scélératesse de David. Il n'y a pas d'autre mot. David qui est lâche en face de la dignité sans faille du soldat Uri, puisque Uri revient et David essaye de l'envoyer coucher avec sa femme pour cacher le fait que Bethsabée est enceinte. Et le soldat Uri dit, pas question, moi je ne vais pas coucher avec ma femme pendant que mes hommes sont en train de se battre. Et David n'y arrive pas, et solution, eh ben, il va faire tuer Uri au combat, et en plus, ça lui arrive souvent, il fait faire la sale besogne par son général Joab. Après, lui, il pourra juste dire d'un ton à peine contraint, « Ah ben oui, mourir au combat sont des choses qui arrivent. Enfin, » là, c'était un peu prémédité quand même. Alors, la question qui se pose, et qu'il faut poser, mais enfin, qui a conservé de tels récits? Qui avait donc intérêt, au fond, à écrire des choses pareilles ou à les garder, et pour quels auditeurs? Qui avait intérêt à faire ça? Le livre des chroniques va le faire disparaître, cette faute de David. Mais là, on voit bien qu'il y a cette volonté de montrer jusqu'où ça va, finalement, dans l'histoire, le fait de vouloir garder sa place royale. En même temps, il y a une autre tradition qui va venir, d'une certaine façon, moraliser, on dit parfois « yaviser », c'est-à-dire mettre sous le regard de Dieu cette affaire, et c'est la tradition du chapitre 12, avec à nouveau entrée en scène du prophète Nathan, et la fameuse parabole, qui est vraiment l'exemple type, et presque la matrice de toutes les paraboles, avec un fonctionnement littéraire et psychologique admirable, la fameuse parabole du riche et du pauvre, le riche qui a des tas de brebis, et le pauvre qui n'en a une, qu'il aime, qu'il élève sur, comme sa fille, sur son sein, enfin voilà, on voit bien que c'est sa femme, et le riche la lui vole. Bon, fureur de David, et Nathan lui dit, cet homme c'est toi, voilà. Découverte de la culpabilité de David. À partir de ce moment-là, on a aussi des choses un peu étranges, parce que, vous le lirez, il y a à la fois la théologie de la rétribution qui est là, et Nathan dit bien, à partir de là, le malheur va se... Je vais faire surgir le malheur dans ta propre maison, il va y avoir un châtiment. Voilà. Et en même temps, le Seigneur a passé sur la faute de David. Et vous avez ce texte curieux, où tant que l'enfant... Alors l'enfant est né de Bethsabée, il est très malade, et tant que l'enfant peut encore vivre, David vit dans le repentir, le jeûne... les pleurs, et puis lorsque l'enfant meurt, il se relève étonnamment et on se demande ce qui se passe. Au fond, nous, on se demande si le châtiment est tombé sur l'enfant, ce qui est sûrement faux, parce que des enfants qui mouraient, il y en avait à la pelle. Et au fond, on a là un texte, moi je crois, qui met en lumière le fait que David doit prendre conscience et est en train de prendre conscience qu'il y avait un choix à faire entre la vie et la mort, et que lui a choisi la mort. Il a choisi la mort. Et à un moment donné, il a cette phrase assez surprenante. « Est-ce que je puis encore le faire revenir? C'est moi qui m'en vais vers lui. » lui ne reviendra pas vers moi. Il a choisi la mort, or, il peut encore se relever, choisir la vie, parce que, au fond, Dieu est le Dieu de la vie, et que la promesse de Dieu traverse sa faute, traverse son péché, traverse même la mort. Et à ce moment-là, David se relève pour que tout soit fait en tout bien, tout honneur. Il épouse Bethsabée, mais enfin, ça, c'est pas grave. Et il aura un fils qui sera appelé aimé de Dieu et qui est le roi Salomon. Voilà. Étrange histoire qui donne vraiment beaucoup à réfléchir sur la façon dont le texte met en œuvre cette question: qu'est-ce qu'on choisit dans la vie? Malgré tout, à partir de là, il y a une espèce de malheur qui se met en marche sur la descendance des autres fils de David, et qui se terminera par la montée sur le trône de Salomon, qui n'est pas du tout une montée paisible, mais qui est une montée qui se fera aussi dans les assassinats et le meurtre. Il ne faut pas l'oublier. Alors, je passe rapidement, mais vous le lirez assez longuement. Il y a toute l'histoire de la révolte d'Absalom, un des fils de David, sur laquelle on est obligé d'attirer l'attention sur la faiblesse de David par rapport à ses fils. Et c'est une faiblesse récurrente et une espèce de résignation devant leur violence. On a son fils aîné, Amnon, qui viole sa demi-sœur Tamar. Absalom, frère de Tamar, se venge et tue Amnon. Et à ce moment-là, on voit David sangloter sur son fils Amnon. Je veux bien, le roi prit et son peuple, le roi garda le deuil de son fils. Mais sur la fille, il n'a pas pleuré du tout. C'est absolument pas intéressé au malheur de sa fille. Oui, c'est quand même... Alors, il y a des éléments psychologiques très forts. Il y a cette espèce d'analyse du désir d'Amnon pour sa demi-sœur et du fait que dès qu'il la viole, il projette sur elle sa propre culpabilité, il la chasse avec Dieu en face. C'est très étonnant. Bon, Absalom, lui, tue Amnon et puis commence à tisser sa trame pour prendre le pouvoir sur son père en partant du sud et en remontant sur Jérusalem. Et lorsqu'il approche de Jérusalem, on assiste à quelque chose d'étrange, c'est la fuite de David. Une fuite qui va être une espèce de longue descente aux enfers, longue descente au sens propre, puisque David descend jusqu'au Jourdain de Jérusalem et va passer le Jourdain. Et c'est au-delà du Jourdain qu'il va se battre définitivement contre Absalom, en tout cas ses troupes, et qu'il pourra remonter vainqueur à Jérusalem. Et cette descente et puis cette remontée, elles sont comme programmées dans un petit récit qui est au chapitre 15, où vous avez une première descente, un peu c'est comme un modèle. Première descente de David, non pas au Jourdain, mais au Cédron, donc juste en dessous de Jérusalem, dans la vallée du Cédron. Et une remontée de David pénitent, pieds nus, la tête voilée, pleurant, sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. Un David qui fuit son fils, qui dit autour de lui qu'il est résigné, si Dieu l'a voulu. Est-ce que c'est un repentir de ses fautes passées? C'est difficile. En tout cas, c'est complexe. Et David est compliqué. Parce qu'en même temps qu'il pleure, il se lamente, il se repent, il a emmené avec lui l'arche de Dieu, donc au fond Dieu lui-même, et les prêtres qui sont de son côté, et à mi-chemin, en remontant le mont des Oliviers, il les renvoie à Jérusalem en demandant qu'on ramène l'arche à Jérusalem au motif que, là-bas, les prêtres qui vont y aller et qui vont retrouver leur fils lui serviront d'espion auprès d'Absalom. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, moi, je veux bien que le David se repent et humble et résigné devant la violence de ses fils, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il a perdu complètement le Nord. Parce qu'il s'assure, au fond, de gens, d'un service de renseignement auprès d'Absalom et de gens qui vont tromper Absalom. Celui-là, ayant un peu perdu la tête, ou au contraire, l'ayant bien gagné, s'installe à Jérusalem, prend les femmes ou les concubines de son père, brouillant les générations, et se donne pour roi devant tout le peuple. Mais on a au chapitre 17 un étrange choix de ce même Absalom qui, au lieu d'écouter son général, son homme de confiance, Ahithophel, qui lui donne un excellent conseil qui l'aurait débarrassé tout de suite de David, choisit d'écouter les espions de David. C'est-à-dire, il choisit d'écouter les mauvais conseils. Et il n'y a pas d'explication, sinon le plaquage de l'explication théologique sur ce choix, le Seigneur avait décrété de faire échouer le conseil d'Aritophel qui était le meilleur. Moi, je veux bien. Compliqué. Compliqué. En tout cas, Absalom a fait le mauvais choix et il est perdu. Alors, on assiste au combat entre les troupes de David et celles d'Absalom avec à nouveau cette espèce de bémol dans la bouche de David qui dit à ses hommes doucement avec le jeune Absalom. Le jeune Absalom s'est quand même installé à sa place à Jérusalem, il a pris ses femmes, c'est pas grave. Doucement. Or, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, alors à nouveau une tapisserie. L'histoire est bien connue, donc je la raconte vite. Absalom qui a une chevelure magnifique dans les branches d'un arbre et il reste suspendu entre ciel et terre. Un serviteur de David passe par là et le respecte puisque David a dit « ne touchez pas à mon fils ». Va le raconter à Joab, qui dit « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» et qui vient se débrouiller. Alors évidemment, Joab, il est noir, il fait par derrière, vient transpercer Absalom avec trois lances. Voilà. Exit Absalom et David a gagné. Alors a gagné, il se lamente. Et il y a à nouveau un très très beau poème sur la complainte de David sur son fils Absalom. « Mon fils, que ne suis-je mort à ta place ?» avec cette idée qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe mal. Et c'est Joab qui, tapant sur la table, rappelle à David son devoir royal. Lui, c'est le roi d'un réel politique. David, désormais, est roi du Royaume-Uni. On termine rapidement la fin de David. Quand vous allez lire les chapitres 1 et 2 du premier livre des rois, ben vous allez être triste, parce que la fin de David est super moche. Voilà, super moche. Vieillard un peu déchu, il a froid, on lui met une jeune fille dans son lit. Bon, il ne la touche pas, je veux bien, mais ce n'est pas terrible. Il a encore un fils qui complote contre Salomon et contre lui. Et il y a une petite touche là qui est très amusante du narrateur qui dit de ce fils Adonias, « Jamais son père ne l'avait réprimandé en disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» à père faible, fils révolté. Bon. En tout cas, à nouveau, vous avez une espèce de contraste entre la déchéance du vieux David et les conseils très politiques qu'il va donner à Salomon. David avait juré à Saül, dans les chapitres 24 et 26, qu'il le respecterait et qu'il ne tuerait pas sa descendance. D'ailleurs, il aimait Jonathan. Bon. Il va tenir sa promesse. Ne tue pas lui-même les descendants ni les partisans de Saül. Mais, dernier conseil donné à son fils Salomon, fais-les disparaître. Et d'ailleurs, pendant que tu y es, fais disparaître le général Joab. Il est trop intelligent, trop fort et trop puissant, il est dangereux. Et Salomon va tranquillement faire disparaître un parole et tout dernier descendant de Saül, tuer Joab et même tuer son frère Adonias. Voilà, la promesse de Dieu s'accomplit, la descendance de David en Salomon est royale, un grand roi. Tout ça se fait quand même à travers le meurtre et le sang, et le lecteur est un peu troublé. J'ai terminé avec votre lecture, j'ajoute qu'il y a un petit ensemble de chapitres à la fin du deuxième livre de Samuel qu'on appelle les suppléments, et dont certains disent « on a mis là tout un ramassis de textes dont on ne savait pas quoi faire ». En tout cas, c'est comme une espèce de condensé des faiblesses et de la grandeur de David. Les faiblesses de David sont exposées au début et à la fin, et au milieu, vous avez des psaumes, deux psaumes, l'un qui reprend au fond un des psaumes du psautier, dont David est considéré comme l'auteur, et l'autre qui est une espèce de chant à la louange de David, fils de Jessé, l'homme haut placé, messie du Dieu de Jacob, et je ne peux pas lire, moi, j'arrive pas à lire la fin. Bon, c'est pas grave. favori des chants d'Israël. Voilà. David, dont au fond, la figure royale est pour une fois, c'est rare, dite effectivement Messie de Dieu, roi de Dieu, et au fond, la figure qui reste, c'est celle du roi chanteur qui loue Dieu. C'est peut-être Chagall qui avait raison. Je conclus en vous laissant méditer. D'abord, je reviens rapidement sur ce que je disais au début. Ce récit qui donne à voir, au fond, les débats entre les sources, les débats entre les idéologies et surtout la complexité du cœur humain. Voilà, la complexité du personnage de David. Qui amène à réfléchir aussi sur, au fond, les histoires de famille. Est-ce que c'est une histoire de fils? Est-ce que c'est une histoire de frère? Moi, j'ai été très attentive à cet amour entre David et Jonathan, parce qu'on a là une histoire de frère qui est le contre-pied de la rivalité et de la haine entre Caïn et Abel. Au fond, Jonathan et David, c'est l'inversion de la relation brisée entre Caïn et Abel. Et il y a un élément très caractéristique dans le texte de ça, puisqu'au chapitre 19, Jonathan, qui va prêter serment à David, lui dit « Sortons dans la campagne », en reprenant les mots de Genèse 4, « étant sorti dans la campagne ». Au lieu d'un meurtre, on a un serment d'allégeance et d'amitié. Donc là, il y a quelque chose de très très fort. Une image donc de fraternité, parce qu'un frère s'efface devant l'autre, qui sera aussi contrebalancée, contredite par ces frères, fils de David, qui s'entretuent tout au long du récit. On a aussi une image de filiation avec David, cette figure de père humain, beaucoup trop humain, et en même temps qu'il y a quelque chose de touchant. David au fond du Caravage, que ça écœure tout ça, mais bon, il aime quand même ses fils. Alors, le troisième point est plus important, c'est quand même, à travers tout ça, à travers toutes ces turpitudes que les derniers auteurs relisent le dessein de Dieu dans l'histoire. Voilà. Et moi, je m'interroge, parce que je crois que c'est le point important, sur la visée théologique. Qu'est-ce que ça dit de Dieu que cet entremêlement littéraire, toutes ces affaires-là. On a un Dieu qui agit dans l'histoire et qui, en passant par la complexité des affaires humaines, du cœur humain, de la violence des batailles, des meurtres, du sang, etc. On a un Dieu qui ne détourne absolument pas l'histoire de ses causes et de son cours, de ses aléas et de ses horreurs. On a simplement un Dieu dont on a l'impression qu'il traverse tout ça, voilà, qu'il traverse et qu'il accompagne tout ça. Et que, bon, ben, il faut accepter de suivre à la trace sa volonté dans cette opacité. Donc, je conclue en disant que je reviens à ma première question. Qu'est-ce que ça veut dire d'être fils de David? À travers l'histoire, l'attente messianique va être un peu omniprésente, importante à certaines époques, disparaissant à d'autres. Les rois d'Israël ont disparu et on a considéré que, au fond, la royauté ne pouvait être qu'une catastrophe. Il y a eu à nouveau des rois à partir de 164 jusque vers 63 avant Jésus-Christ, et ils ont été des catastrophes. Et pourtant, dans le peuple, on attend toujours, même si on ne le dit pas trop, surtout dans les élites, à cause du pouvoir romain, on attend toujours un Messie, fils de David. Voilà. Donc, quand on dit, ou quand Jésus regarde et reçoit la figure de fils de David, ça consiste d'abord à assumer un poids d'histoire et d'humanité dans toute sa complexité, sa difficulté, sa laideur. Et au fond, Jésus est l'héritier d'une histoire humaine à la fois magnifique et reconnue comme lamentable. Il est dit, Matthieu le dit très bien, il dit, fils de David, par la femme d'Uri, tout est dit là, fils de David, à travers cette histoire épouvantable du rap de Bethsabée et du meurtre d'Uri. D'ailleurs, Bethsabée, il ne la nomme pas. Voilà. Fils de David par la femme d'Uri. Alors, l'image royale que Jésus donne, évidemment, on le sait, c'est celle d'un roi crucifié. Sa royauté, elle n'est pas de ce monde. Mais de ce monde, il traverse bien la violence, la dureté, pour le retourner, évidemment, en pardon. Voilà, et donc, on peut finir sur le vitrail de Chartres, que vous connaissez bien. Comme le dit Victor Hugo, un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu, avec la figure, effectivement, de Jésus en haut du vitrail. J'ai pas David en bas, mais je suis pas arrivée à l'avoir en gros. Voilà. Voilà. J'ai beaucoup trop parlé, mais j'écoute vos questions. Je vais enlever l'écran. Arrêtez. Voilà. Et donc, je vous écoute. Réaction, question.
Oui, peut-être une question basique, enfin élémentaire. Qu'est-ce qu'on sait du véritable rapport de David avec les psaumes qui lui sont attribués? Est-ce qu'on a des éclairages là-dessus?
On ne sait rien que le fait que les récits autour de David sont sans arrêt, marquent sans arrêt cet élément de la musique. De la musique de David, le jeune musicien qui vient apaiser l'esprit mauvais de Saül, de David qui chante et qui danse devant l'arche, de David dont on dit qu'il a écrit des psaumes. Évidemment, ça reste. De toute façon, la figure de David, elle est complètement reconstruite. Hein. L'histoire, au sens strict du terme, historien le plus, j'allais dire, le plus rude, parce que malgré tout, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais l'histoire, elle s'appuie, aujourd'hui, elle dit, on a une stèle de 850 sur laquelle on a Beth David, la maison de David. Voilà, le roi est de la maison de David. 850, ça fait 150 ans après, ça fait beaucoup de temps. Mais la maison de David a existé et ses récits ne sont pas bâtis sur n'importe quoi.
Voilà. Ok, merci.
Autre réaction ou question? Vous n'êtes pas trop perdu? Si, un peu. Bon, mais vous allez lire et vous allez travailler.
Mais la filiation de Jésus, qu'on appelle fils de David, c'est en fait par Joseph.
Ah oui, oui.
Donc, et Joseph, père adoptif.
Oui. N'empêche que, fils de David selon la chair, dit Paul.
Oui.
Non, mais on est devant un ensemble complexe. Hein. Mais effectivement, Joseph est celui qui fait entrer Jésus dans la filiation davidique. S'il était lui-même descendant de David. Mais vous voyez, il y a quelque chose là autour. Est-ce qu'on avait besoin d'aller inventer ça? Le Messie est-il descendant de David? Oui, c'est l'idée d'onction, l'idée de Messie royal qui est présente. Et donc, c'est bien cette figure du roi que Jésus va devoir retourner.
Et au moment de la naissance de Jésus, il y a le recensement dans la ville de David.
À Bethléem, absolument. Alors, qui sert aussi, vous voyez la complexité des choses, qui sert aussi à dire, permet de dire, au récit de Luc et de Matthieu, Jésus est né à Bethléem. Dans l'évangile de Jean, on vous dit, enfin, le Messie devrait venir de Bethléem. Celui-là, il vient de Galilée, ça ne peut pas être lui.
Donc, Nazareth.
On l'a appelé le Nazaréen.
Oui.
Effectivement, pour être descendant de David, il fallait qu'il vienne de Bethléem. Voilà. Oui. On peut le dire comme ça.
Il y a bien quelque chose pour reprendre l'expression de Saint Paul. Quand il dit qu'il est fils de David selon la chair, il n'envisage pas selon les chromosomes, selon
Ah oui!
Il veut dire qu'il est dans une lignée humaine. Oui. Matthieu, par exemple, a fait défiler dans le début de son évangile. C'est-à-dire que c'est vraiment une lignée humaine. Ce n'est pas un ovni qui est descendu du ciel.
Oui, oui.
Et le selon la chair, il ne faut pas l'entendre comme on l'entendrait peut-être aujourd'hui avec nos éprouvettes et nos...
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait d'accord. Alors, et je pense en plus que c'est un kérigme ancien, que c'est un kérigme qui vient du judaïsme. Parce que Paul n'a pas ce type de kérigme à deux étages. Fils David selon la chair, reconnu fils de Dieu par la résurrection, c'est quand même un kérigme qui a des résonances adoptionnistes, qui est ancien. Paul y dira tout simplement, né d'une femme, né sous la loi. Voilà. C'est ce qu'il dit dans les Galates. Hein. Né d'une femme, né sous la loi. Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. On voit bien que tout tourne autour de la question, au fond, du titre messianique. Voilà. Oui, c'est ce que c'est que d'être Messie Christos.
Oui, c'est...
Tout tourne autour de cette question-là.
Tout tourne autour de...
Jusqu'où, comment peut-il prétendre au titre messianique? Oui. Et le titre messianique, il est chargé d'un énorme poids d'histoire. Voilà, c'était ça ce que je voulais vous dire. Le titre messianique, il est chargé d'un énorme poids d'histoire humaine.
Et il n'y a jamais eu d'onction pour Jésus. Si. Il n'y a jamais eu d'onction pour Jésus.
Ben, c'est remplacé dans le récit évangélique par le récit du baptême.
Oui, c'est vrai.
Bon. Qui n'est pas une onction, qui est un baptême.
C'est un baptême, c'est de l'eau, c'est ouais. Pas de l'huile.
Non, c'est de l'Esprit Saint.
C'est-à-dire que l'onction, c'est la parole du Père qui donne l'onction au moment du baptême.
Oui, oui.
C'est la parole.
Oui, oui.
Il y a un récit troublant, tout de même, c'est l'onction à Béthanie.
Absolument, j'allais dire, il y a aussi ça. Il y a les récits d'onction à Béthanie qui sont placés différemment, à différents endroits, suivant les évangélistes. Avec des significations qui ne sont pas toujours les mêmes.
Oui, oui, c'est pas clair.
Voilà. Alors, moi, je trouve que l'intérêt, au fond, de lire ces livres, il y a tout l'intérêt pour la figure de Jésus, mais c'est aussi le fait que, au fond, la Bible, c'est jamais complètement, et même le contraire avec David, un processus d'idéalisation de type moral, autre. L'être humain est vraiment ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est moche, il est mal fait, il est complexe, l'histoire est vraiment ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est faite de violence et de... Voilà, il y a des bons moments, mais dans l'ensemble, ça se passe mal. Et... Ce qui est intéressant, c'est que la promesse de Dieu travaille là-dedans.
Mais c'est ça.
Sans jamais dire moi je ne veux pas de ces affaires-là. Voilà. C'est trop moche. Sans jamais vouloir passer par ailleurs. On a un seul récit où elle passe par ailleurs, c'est le déluge.
C'est ce que j'allais dire.
On efface tout et on recommence. Mais non, il en restait un. Donc, il y a ce sens aigu de, voilà, l'histoire, elle est comme ça, mais elle n'est pas condamnée. C'est au fond le contraire de toutes les gnoses. Ce monde est mauvais, il y a un autre monde qui est bon. C'est juste le contraire. Ce monde est mauvais, oui, ben c'est celui-là, dans celui-là que Dieu agit, c'est celui-là que Dieu aime. Et ça, moi, je trouve c'est assez fascinant.
Oui, oui.
Une espèce d'affirmation massive de ça. Ouais, le monde est moche. Ouais, c'est affreux. Mais c'est quand même celui-là que Dieu aime. Et c'est là qu'il travaille. Voilà.
Moi, ce qui me frappe, c'est que dans la suite de tous les textes qu'on a étudiés là, dans les groupes bibliques, les personnages que l'on voit sont quand même des personnages éminemment humains avec des qualités, certes, mais des défauts. Si on pense à Abraham, à la lâcheté d'Abraham, des choses comme ça, si on pense à Jacob qui est le roublard des roublards, là ici, David, qu'on a peut-être tendance à idéaliser, il est quand même dans une histoire vraiment...
Absolument. Il y a qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelqu'un qui a un téléphone.
Et la musique de David.
Et au fond, ça, c'est vraiment important. Ce refus de faire de enfin, c'est le refus du docétisme, c'est le refus de la gnose, c'est le refus de voilà, on va passer à côté de l'histoire, on va passer au dehors, on va aller ailleurs, c'est plus propre. Ben non, on va pas ailleurs, c'est plus propre, c'est là que ça se passe. Non, mais ça c'est important parce que ça reste quelque part hein, dans la tête du bon chrétien. Il y a quand même un monde qui est sale et un monde qui est propre. Ben non.
Non.
Voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter tel que. Ça veut dire qu'il faut traverser. Moi, ça m'a fait réfléchir, cette impression que, voilà, la parole de Dieu traverse tout ça, ça me fait réfléchir aussi sur la notion de la Pâque. C'est bien une traversée, tout ça. Voilà. Il faut traverser tout ça. Et en ce sens, il y a des scènes qui sont au premier abord très choquantes. Le deuil de David ou la repentance de David pendant que le premier enfant est malade. Et puis ce deuil qui s'arrête quand l'enfant meurt. Mais si on essaye de ne pas penser avec nos catégories à nous et de voir que le texte veut dire autre chose, il y a bien cette idée qu'il faut traverser les choix pour la mort, mais que ça doit émerger sur autre chose. Voilà. On doit sortir vers autre chose. Ça, c'est assez fascinant.
Et le fait que le texte insiste plusieurs fois sur que c'est Dieu qui inspire l'esprit mauvais à Saül, en fait, vous l'avez évoqué... Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait? Ça me fait penser en fait au Notre Père qu'on a changé. Ne nous soumets pas à la tentation qui devient. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et là, voilà.
Je pense qu'effectivement, ça montre la difficulté. Alors, c'est tous des textes humains, très humains. C'est des façons d'essayer de comprendre, essayer humainement de comprendre comment Dieu agit dans l'histoire. Et on comprend pas. Donc, on voit bien que il y a cette espèce de jalousie de Saül pour David. Et donc, la façon de dire, de toute façon, une dynastie va remplacer l'autre. Donc, la façon d'essayer de comprendre ça, c'est de prêter, au fond, la maîtrise des événements à Dieu. Dieu n'a plus besoin de lui, il lui envoie un esprit mauvais. Mais on voit bien que c'est une explication plaquée, théologique plaquée, parce que quelque part, on essaye d'expliquer, de justifier Dieu. Alors, on n'est pas là pour expliquer ou pour justifier Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? On essaye d'expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas, et ayant une espèce d'idée préconçue qu'au fond, Dieu est tout puissant et que c'est lui qui fait tout, il envoie l'esprit mauvais à Saül. Et derrière, vous avez aussi l'analyse, et ça, je dis ça, c'est fascinant, l'analyse psychologique très fine qui montre que c'est vraiment une question de jalousie. C'est vraiment une question de jalousie. Et qu'il lutte contre cette jalousie, Saül, mais il n'y arrive pas. Il est débordé. C'est l'histoire, encore une fois, c'est l'histoire de Caïn. Hein. Il est débordé par la bête. Ouais. On le raconte comme on peut. Et quand on ne sait pas d'où vient le mal, il faut excuser Dieu. Donc, Dieu se sert de quelque chose de mauvais pour... Voilà. Mais bon, comme on ne sait pas l'origine, on continue à se poser la question.
Ça fait un peu penser à l'Exode quand il est dit que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon.
Oui, exactement.
Le départ de Moïse.
C'est la même façon de raisonner.
Et c'est très troublant, effectivement, parce que ça donne l'image d'un Dieu mauvais.
Absolument.
Oui, oui.
Alors qu'on veut montrer que c'est Dieu qui est le maître des événements. Voilà. Et qu'au fond... Pharaon essayait de tenir bon longtemps. Voilà.
En fait, dans le texte de l'Exode, il y a autant de phrases qui disent « Dieu endurcit le cœur de Pharaon » et de phrases qui disent « Pharaon endurcit son cœur ». Donc on voit bien, et d'ailleurs Pharaon fait des volte-face, n'arrête pas de... On voit bien quand même que c'est du cœur de Pharaon que partent les choses. C'est ce que vous disiez.
Oui, mais c'est qu'on a deux traditions différentes. C'est que clairement, on a deux traditions différentes, probablement pas de la même époque, et en tout cas venant pas du même milieu. Une tradition qui s'efforce, et c'est ce que j'appelais l'effort historien, historique, de trouver des causes psychologiques et un enchaînement, une explication à l'enchaînement des événements, puis une tradition plus théologique qui relie les choses d'en haut, en disant voilà, le dessein de Dieu c'était de sortir de là, bon, il fallait que Pharaon, fasse le crétin et donc Dieu endurcit le cœur du Pharaon. Mais c'est deux lectures différentes, avec des points de vue très différents. Et moi, je trouve que l'intérêt, comme le dit Claire du récit biblique, c'est qu'il juxtapose, ou même des fois, il entremêle les deux. Et le lecteur est un peu perdu. Il y a vraiment cette tension, moi, je trouve que la force, c'est que la tension est conservée entre l'explication humaine, psychologique, historique, et la relecture qui se veut théologique. Et qui peut être très maladroite. Mais bon, qui a quand même sa raison d'être. Et qui finalement donne quand même la grande ligne, la ligne directrice. Voilà. Voilà. Bon, je suppose que vous êtes fatiguée.
Merci, merci.
Alors, la règle du jeu, puisque nous sommes en distanciel, c'est que vous avez normalement reçu chacun vous avez reçu chacun